Alors, je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir à nouveau partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez, depuis quelque temps déjà, on zigzague un peu dans Luc. On fait des allers et retours. Et aujourd'hui encore, on va considérer Luc. Alors, Frère Ben, est-ce que tu veux prier pour le message? Merci. Amen. Merci, frère. Alors, vous savez que la semaine passée, on avait considéré l'histoire de Bartimée. Et on voyait que Jésus qui s'approchait de Jéricho. Maintenant, on va voir Jésus qui est entré dans Jéricho. Luc 19, versets 1 à 9. Pardon, 1 à 10. Là encore, quelqu'un qui fait des efforts pour voir Jésus. Luc 19, 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur !» Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Jéricho est une ville célèbre. Vous connaissez déjà que lorsque les enfants d'Israël devait entrer dans la terre promise, c'était la première ville qu'ils avaient dû conquérir. Et on a plusieurs événements qui se sont déroulés à Jéricho. Donc c'était une ville assez importante. Et donc ici, il nous a dit que Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et là encore, on a un homme qui avait entendu parler de Jésus. Et il disait que il voulait voir cet homme, lui aussi. Ce n'était pas tout à fait comme Bartimée, lui, qui savait déjà ce qu'il voulait demander à Jésus. Mais Zachée voulait ne serait-ce qu'apercevoir cet homme dont il a entendu parler. Et alors il dit, je veux voir cet homme. Et la Bible nous dit qu'il était riche et qu'il était de petite taille. Alors, qui était Zachée? Donc, Zachée était ce qu'on appelait un publicain. Même plus, il était chef des publicains. Et qui étaient les publicains à l'époque? Les collecteurs d'impôts. Et c'était les mal-aimés de leur époque. Parce qu'ils collectaient l'impôt, eh bien, pour l'occupant. Ou si vous voulez, les occupants, les Romains. Et les Romains, donc, prélevaient une taxe sur les territoires occupés, eh bien, pour soutenir leur empire, pour soutenir leur armée, pour faire aussi, bien sûr, les routes. Nous savons qu'à l'époque romaine, il y avait les routes. Et par ailleurs, ce sont les routes qui ont facilité la propagation de l'évangile. Et Dieu a fait bien les choses de sorte que, à l'époque où l'évangile a commencé à se répandre, il y avait les routes et il y avait la paix. La Pax Romana. Ouais. Et donc, voilà. Zachée, donc, était collecteur d'impôts. Il percevait les impôts, donc, pour les occupants. Ce qui fait que les Juifs n'étaient pas du tout contents. Et parce que, donc, c'était les occupants qui utilisaient cet argent pour leur propre bénéfice. Et surtout que c'était des païens. Et les Juifs n'aimaient pas les païens non plus. Et en plus de ça, si c'était pour utiliser pour les temples romains et autres, ils voyaient ça de mauvais œil. Et puis encore, parce que les publicains percevaient non seulement l'argent pour les Romains, mais aussi pour leur propre poche. Alors, c'est pourquoi ils étaient détestés. Donc, la Bible nous dit que Zachée était riche. Donc, si Zachée était riche, c'était pas toujours par les bonnes méthodes, la bonne manière. Et donc, Zachée devait donc être très détesté par les Juifs. Voilà. Mais Zachée, il voulait voir Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il sait qu'il est de petite taille, il est allé grimper sur un sycomore pour voir Jésus. Parce qu'il dit, je vais essayer de voir où est Jésus. Et voilà que, la Bible nous dit, verset 3, « Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. » Et là, donc un homme intelligent, il est monté sur l'arbre. Verset 5, « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. » Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, le premier point de notre message, c'est que Jésus, c'est là où tu es. Je suppose que Zachée devait être surpris que Jésus puisse le connaître. Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée. Donc Jésus, c'est là où tu es et il te voit. Que tu cherches à le trouver ou bien que tu cherches à le fuir, il le sait. Le psaume 139 nous dit, c'est David qui parle et dit, où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends en dessous de la terre, tu y es. Si je traverse les mers, je vais au fond des océans, là aussi tu es. Tu es partout. Personne ne peut fuir de la présence de Dieu. Jonas a essayé, mais il a été rattrapé. Personne ne peut échapper, eh bien, de cette présence de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Jésus, c'est là où tu es. Et ça, c'est extraordinaire. Je me rappelle à un moment donné, au début du ministère, où j'ai traversé un moment très difficile, et je me suis posé la question, y a-t-il quelqu'un qui sait où je suis? Y a-t-il quelqu'un qui sait où je suis? Mais c'est réconfortant de savoir, le Seigneur sait où on est. Même si personne ne sait où on est, lui, il sait où on est. Et c'est extraordinaire, quand je regarde en arrière, comment, même dans l'obscurité, eh bien, le Seigneur nous conduit. On peut se dire, ah oui, personne ne sait où je suis. Et pourtant, le Seigneur est là, il nous conduit. Je me rappelle quand je suis arrivé ici, en Belgique, pour la première fois. Bon, bien sûr, j'avais entendu un peu parler du froid, de la neige, etc. Mais bon, entendre parler des choses et voir la chose, il y a une différence, n'est-ce pas, Ben? Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je suis arrivé ici, au moment où l'hiver commençait réellement, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne m'étais pas préparé vraiment pour l'hiver. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu deux frères qui se sont comportés envers moi de manière extraordinaire. Quand l'hiver a commencé, je me rappelle, c'était au mois d'octobre, et là, je pense que cette année-là, on a eu l'hiver le plus rapide. Et un des frères, alors que j'étais venu avec l'habillement d'été, venant d'Haïti, et un frère m'a amené dans un magasin et m'a habillé pour l'hiver. Extraordinaire. Extraordinaire. Et puis un autre frère m'a chaussé pour l'hiver. Dieu savait tout. Amen. Dieu savait tout. Donc moi, je n'étais pas tellement au courant des choses, mais Dieu nous connaît. Et on voit ici, il connaît Zachée par son nom. Dieu nous connaît et il nous connaît par notre nom. Zachée. Et Zachée a pu dire, mais d'où est-ce qu'il me connaît? Alors que peut-être pour les gens, nous sommes des anonymes. Mais pour Dieu, nous ne sommes pas des anonymes. On peut essayer de se cacher, de dire, ah non, on ne me connaît pas. Mais il y a quelqu'un qui nous voit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce regard-là, ce n'est pas un regard malveillant. C'est un regard bienveillant. Amen. C'est un regard bienveillant. Alors que peut-être nous essayons de fuir, mais pourtant, ce regard-là qui nous cherche, c'est pour nous sauver, c'est pour nous faire du bien. Donc, il ne faut pas essayer de chercher à fuir. Il nous connaît par notre nom, et ce qui est encore extraordinaire, c'est qu'il connaît exactement notre situation. C'est-à-dire, on n'est même pas obligé de lui expliquer, de lui raconter du début à la fin. Peut-être parfois, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et que cette personne peut éventuellement t'aider, tu es obligé de raconter l'histoire de A à Z et tu veux t'assurer que la personne comprend bien ta situation. Ou peut-être si c'est une situation trouble où on t'a accusé de choses qui ne sont pas, alors tu veux mettre au clair les choses que bon, voilà comment les choses se sont réellement passées. Et tu veux que les gens comprennent très bien pourquoi tu es là où tu es, qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais le Seigneur, lui, nous connaît. Amen. Il connaît exactement la situation. Et parce qu'il connaît exactement la situation, il sait aussi ce qu'il faut faire. Et il sait aussi comment il faut faire. Et moi, j'aimerais dire aussi qu'il connaît aussi tes efforts et tout ce que tu as fait pour être là où tu es. Jésus savait ce que Zachée a dû faire pour être là où il est, pour le voir. Et Jésus a apprécié l'effort ou les efforts de Zachée pour être là où il était. Et donc, Jésus dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Non pas descendre, mais hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le deuxième point, c'est que Jésus, il nous voit, il nous connaît, mais Jésus ne veut pas rester dehors. Il veut entrer chez nous. Amen. Il veut entrer chez nous et prendre le repas avec nous. Et donc, il dit à Zachée, à toi de descendre. Pour accueillir Jésus, nous devons descendre de notre piédestal, nous humilier pour pouvoir l'accueillir. Je vous ai déjà raconté cette histoire du cosmonaute russe. C'est une histoire que m'a raconté un de mes anciens profs quand j'étais au secondaire. Et cette histoire m'est toujours restée à l'esprit. C'est cette histoire du cosmonaute russe qui est allé dans l'espace. Et alors, quand il est revenu sur Terre, vous savez, à l'époque, c'était à l'époque communiste ou à l'époque soviétique. Et alors, quand il est revenu sur Terre, il disait à un de ses amis, on dit que Dieu existe, mais moi, je suis monté et je ne l'ai pas vu. Et son ami lui a dit, mais tu t'es trompé, pour voir Dieu, il faut descendre. C'est pas monter qu'il faut faire, mais il faut descendre, parce que c'est à genoux qu'on voit Dieu. C'est à genoux qu'on voit Dieu. Donc, pour voir Jésus, pour accueillir Jésus, il faut descendre de notre piédestal, nous débarrasser de toute une série de préjugés, de toute une série de fausses idées. Vous savez, si vous posez des questions aux gens dans la rue, s'ils connaissent Jésus, ils vont dire oui, ils connaissent Jésus. Mais ils ont tellement de fausses idées concernant Jésus. Et moi, personnellement, plusieurs fois au bureau, combien de fois j'ai dû rectifier certaines choses par rapport à Jésus, Dieu, la religion, à des gens qui font des citations disant, prétendant que ça vient de la Bible. Je dis, ah non, non, non. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ou plutôt, c'est pas tout à fait comme ça que la Bible le dit. Vous présentez mal la chose. Et donc, il faut s'humilier, se débarrasser de certaines fausses idées et pour vraiment venir rencontrer Jésus. Et là, c'est extraordinaire de voir que Jésus, eh bien, désire entrer chez Zachée. Et en plus de cela, il lui dit, hâte-toi de descendre. Il veut entrer chez Zachée. Alors que tout le monde cherche à fuir Zachée, Jésus dit, je veux entrer chez toi, Zachée. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. À toi de descendre. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et notre troisième point, c'est que Jésus n'a pas honte de toi, car il sait quel plan il a pour toi. verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez le traître. Il est allé loger chez le collabo. Il est allé loger chez cet homme horrible. Voyant cela tous, il a dit tous, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus n'a pas honte de toi, et il sait quel plan qu'il a pour toi. Es-tu prêt à te repentir comme Zachée et faire restitution à tous ceux à qui tu as causé du tort? Voyez, Zachée savait qu'il était pécheur. Et avant même que Jésus lui dise quoi que ce soit, il reconnaissait ses torts, ses péchés. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ça, c'est le premier geste que fait Zachée. Je donne la moitié. Et la deuxième chose, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Là, il met en pratique une loi qui existe déjà dans l'Ancien Testament, la loi de la restitution que Dieu avait donnée à Moïse. Eh bien, celui qui vole doit non seulement rendre ce qu'il a volé, mais aussi, eh bien, faire réparation. Et donc, dans beaucoup de cas, il fallait rendre le quadruple. Et donc, Zachée était au courant de la loi. Il n'était pas expert de la loi, mais il y a certaines choses de base qu'il connaissait. Et comme tout le monde sait plus ou moins ce qui est bien, n'importe qui, parce que Dieu nous a donné à chacun une conscience. Même le pire criminel sait quand il a dépassé les bornes. Patrick Amers, hein, pour les plus vieux, quand qui faisait les 400 coups en Belgique, ce gangster cambrioleur, quand, à un moment donné, quand il était en prison et les journalistes sont allés l'interviewer, il reconnaissait, il disait, j'ai fait beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses mauvaises, hein. Il reconnaissait. Mais sauf que lui, il ne s'est pas vraiment repenti. Donc, Zachée savait que s'il était riche, ce n'était pas toujours de la bonne manière. Et qu'il savait que s'il avait perçu des taxes de ses concitoyens, ce n'était pas seulement pour les Romains, mais c'était aussi pour sa propre poche. Alors, il était prêt donc à tourner la page, et il était prêt à donner aux pauvres, mais aussi à faire réparation, à restituer. Et donc ici, Zachée montre sa foi. Vous savez, la foi, c'est pas seulement dans la tête, mais la foi, c'est aussi dans l'action. Par son action, Zachée a montré qu'il avait la foi. Et cette action-là montre qu'il y a eu vraiment un changement, une repentance de la part de Zachée. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire au verset 9, Jésus lui dit, le sage est entré aujourd'hui dans cette maison. Extraordinaire, le salut est... Donc, Zachée s'est repenti. Et il a montré cela par son action. Il dit, je donne aux pauvres. Et je restitue. Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et je pense que les Juifs devaient être choqués pour deux raisons. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut traiter cet homme de fils d'Abraham, cet escroc? Et en même temps, contradictoirement, ils pouvaient se dire, mais n'était-il pas déjà un fils d'Abraham? Le véritable fils d'Abraham n'est pas généalogique, mais spirituel dans le comportement. Et c'est pour cela, dans Luc 3, verset 8, Jean-Baptiste pouvait dire, Luc 3, verset 8, Jean-Baptiste, on va lire à partir du verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et donc là, Jésus veut montrer que être enfant d'Abraham, ce n'est pas simplement biologique ou généalogique, mais enfant d'Abraham, c'est celui qu'il est par sa foi obéissante. Et donc Jésus pouvait dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi, celui-ci est aussi un fils d'Abraham, parce que les autres disaient, il est entré chez un pécheur. Jésus dit, il est aussi fils d'Abraham. Et en fait, il est plus fils d'Abraham que cela auquel vous pensez. Que cela qui, selon vous, sont les bons. Verset 10, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je suis le médecin des malades, ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont malades. Et la sainte scène que nous venons de célébrer, c'est Jésus qui est venu pour les malades. Mais si vous dites que vous n'êtes pas malade, eh bien vous allez mourir, vous allez périr, parce que vous n'avez pas voulu de médecin. Et vous savez, il y a des gens qui meurent comme ça, parce qu'ils n'osent pas aller voir le médecin. Ils ne veulent pas aller voir le médecin, et alors ils meurent. Et donc Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous ne vouliez pas de lui, mais moi ce sont ces gens-là que je cherche, dit Jésus. Vous avez honte de lui, eh bien maintenant Jésus, en fait il est dit, c'est comme s'il est dit, maintenant je suis fier de toi, Zachée. Et donc peut-être, les hommes peuvent avoir honte de nous, mais Jésus peut être fier de nous. Amen. Par notre foi obéissante, Jésus dit qu'il est fier de nous. Et donc, c'est pour ça, il dit qu'il n'a pas honte de nous appeler amis. Il dit, je ne vous appelle même plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et maintenant, vous êtes dans mon intimité, vous connaissez mon secret, vous connaissez mon plan. Jésus nous a donné, Dieu nous a donné son plan, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous savons ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera encore. Parce que nous avons, par exemple, l'Apocalypse qui est la révélation de Jésus-Christ. Hein, c'est ça le titre, hein, la révélation de Jésus-Christ, ce sont les premières paroles de ce livre. Et bon, bien sûr, le Seigneur lève le voile petit à petit. Hein. On ne connaît pas tout d'un seul coup, parce que de toute façon, on ne pourrait pas supporter une telle révélation. Des fois, il y a des choses que tu connais et tu dis, ah, oh, c'est trop lourd, est-ce que je peux porter ça? Hein, ou parfois, tu reçois quelque chose, tu sens comme l'obligation de partager cela parce que c'est trop lourd. Donc, bien sûr, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu sage. il nous révèle des choses, mais au fur et à mesure. Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand le moment viendra, eh bien, je vous enverrai le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dieu n'est-il pas sage? Il nous a donné son Esprit Saint. Et donc, Dieu est là. Il nous invite, en fait, à le laisser entrer chez nous. Et lui aussi, il nous ouvre ses portes et nous partageons son intimité. Extraordinaire. Alors, le message ce matin, c'est premièrement, c'est que Jésus sait là où tu es. Et il te voit. C'est-à-dire que il n'ignore pas tous tes efforts. Peut-être que tu travailles pour le Seigneur, tu fais des choses, tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait tous les efforts que je fais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit tous les sacrifices que j'ai faits? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me récompenser pour tout ce que je fais? Alors, vous savez, il y a des gens qui font certaines choses et ça se passe à la télé, tout le monde est au courant, ils font une petite chose, parfois ils font des choses, ou ils ne font pas des choses, ils s'attribuent des choses des autres. Comme j'entends parfois, il y a des professeurs qui obtiennent des prix Nobel ou autres, mais ce sont leurs élèves qui ont fait les découvertes et autres. Parfois, ça arrive que des gens se vantent du travail des autres. Mais le Seigneur te dit ce matin, il sait où tu es. Et il sait tous tes efforts. Et en son temps, lui-même te récompensera. Amen. Il te connaît. Et il te connaît par ton nom. Peut-être pour les autres, tu es un anonyme. Au pire, tu peux être pour certains un numéro. Mais le Seigneur dit qu'il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Et plus que cela, le Seigneur veut entrer chez toi. Il veut entrer dans une relation intime avec toi. Mais pour cela, tu dois t'humilier. Il faut descendre. Il faut descendre du piédestal pour accueillir Jésus. Il faut se débarrasser de ses préjugés, des idées préconçues et venir à lui vraiment tel que nous sommes. Et lui-même, il nous nettoiera, il nous purifiera, et comme il l'a fait déjà pour Bartimée qui avait jeté son manteau et qui était venu à Jésus. Et troisièmement, je dis, Jésus n'a pas honte de toi. Même lorsque les autres disent, te méprisent, t'insultent, te disent que tu n'es rien, tu n'as pas d'avenir ou que sais-je encore, mais Jésus, il n'a pas honte de toi. Amen. Il n'a pas honte de toi, il n'a pas honte de t'appeler son ami, son enfant. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur Jésus dit qu'il a un plan pour toi. Et il dit, toi aussi, tu es un enfant d'Abraham. Amen. Toi aussi, tu es un enfant d'Abraham. Toi aussi, tu as un héritage. Toi aussi, tu as un nom. Tu as aussi un nom. Tu n'es pas un anonyme pour le Seigneur. Tu as un nom. Tu as un héritage. Tu appartiens à une famille. Tu n'es pas sans famille. Tu appartiens à une famille, à la famille de Dieu. Et il faut reconnaître que comme Zachée, que nous avons péché, que nous avons erré, et que Jésus, eh bien, il peut nous restaurer. Amen. Jésus peut nous restaurer, peut nous laver, peut nous purifier, et montrons notre foi comme Zachée par notre obéissance. De dire, Seigneur, eh bien, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je suis prêt à réparer ce tort-là. Voilà, le Seigneur nous invite comme Zachée à entrer en communion avec lui et il veut nous dire qu'il est fier de nous. Même lorsque les hommes nous abandonnent, David disait, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. Amen. Remercions le Seigneur de ce qu'il voit où nous sommes, qui nous sommes. Il voit nos efforts, il voit nos luttes. Et il veut entrer en communion avec nous. Il veut être là avec nous. Et il dit qu'il n'a pas honte de nous. Il veut relever notre tête. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu vois où nous sommes. Tu nous connais par notre nom. Tu connais notre situation. Tu n'as pas besoin qu'on te raconte. Tu connais la situation parfaitement. Et merci parce que tu es capable d'intervenir. Et tu es celui qui nous restaure. Tu es celui qui nous connaît par notre nom. Et tu es celui qui a un plan pour nous. Tu nous dis, toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Toi aussi, tu as de la valeur. Toi aussi, tu as de l'importance. Toi aussi, tu appartiens à la famille. Tu n'es pas étranger. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous invites à être à la même table que toi. Tu ne nous as pas rejetés, tu ne nous as pas repoussés, mais tu nous invites à être à table avec toi. Oh Seigneur, quel privilège de te connaître. Quel privilège de t'appartenir. Quel privilège de savoir que tu es là. Ton œil est sur nous. Ton regard. Tu jettes sur nous un regard bienveillant, non pas un regard malveillant, mais un regard bienveillant. Tu veux nous faire du bien. Seigneur, je te prie de bénir tout un chacun ici ce matin. S'il y a quelqu'un qui essaye de te fuir, que cette personne puisse savoir que tu es là, que tu es venu pour sauver ceux-là qui étaient perdus. Tu n'es pas venu condamner, mais tu es venu sauver. Tu n'es pas venu juger, mais tu es venu sauver. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin, Seigneur Dieu, qui fuit ou qui est découragé, oh Seigneur, que tu relèves, Seigneur Dieu, que cette personne sache que tu veux demeurer avec elle et que tu veux partager cette table avec elle et que cette personne a un avenir, a de l'espérance. Car Seigneur, tu dis, je sais les projets que j'ai pour toi, non pas des projets de malheur, mais des projets d'espérance, de paix, de joie, de bonheur. Merci Seigneur. Bénis ton peuple Seigneur ce matin. Encourage ton peuple Seigneur Dieu. Oh Seigneur, que nous sachions que tu es là Seigneur Dieu. Tu nous veux du bien. Tu nous connais par notre nom Seigneur Dieu. Nous avons de la valeur à tes yeux. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Amen.